Bah écoutez, moi je fais partie des fondateurs de l'association, qui a été fondée en octobre 2006 maintenant, donc ça fait plus de 10 ans. On a fêté notre anniversaire des 10 ans l'année dernière, et avec non moins d'émotion, quoi. On est assez fiers du chemin parcouru parce qu'on a vraiment commencé avec rien au départ, simplement la volonté de participer à la reconnaissance de la pratique ludique. Et notamment, on s'est tourné sur le besoin qui existait de faire découvrir les jeux de société. Il y a un certain nombre de barrières qu'encadrent la pratique du jeu de société, notamment apprendre les règles. Il y a aussi une barrière liée en fait à la connaissance de ce qu'il existe en termes de jeux de société sur le marché du jeu. Et puis il y a aussi le prix, parce que si on aime bien varier les plaisirs, et acheter des jeux, finalement, ça coûte cher à la longue. Donc on voulait absolument participer à cette reconnaissance de la pratique ludique comme à la fois quelque chose qui était vraiment d'intérêt social, c'est-à-dire que le jeu peut vraiment rassembler les gens, leur permettre de se rencontrer, de se découvrir, d'en apprendre sur eux-mêmes, de prendre du plaisir tout simplement. Et ça veut dire qu'on peut en fait, en faisant jouer les gens, faire vraiment avancer la société dans une direction agréable pour tous.
Vous, avant de créer cette association et avant d'intégrer la Maison des Jeux de Touraine, donc en 2006, qui a été créée cette année-là, est-ce que vous étiez joueur? Est-ce que vous étiez passionné de jeu ou c'est venu un peu avec le temps?
Alors, c'est une rencontre de passionnés, l'histoire de la Maison des Jeux. C'est des chemins qui sont croisés un peu par hasard, mais plutôt une bonne rencontre. On était plutôt des passionnés de jeux. Il y avait des gens qui venaient d'univers différents, certains qui sortaient d'associations de jeux de l'université. Moi, j'avais plutôt un parcours d'animateur socioculturel. Et dans ce parcours, j'avais énormément fait jouer les enfants, voilà, dans le cadre des actions de loisirs que j'avais pu mener. Et à côté de ça, j'étais passionné par la nouvelle vague de jeux de société qui apparaissait à cette époque-là. On avait vraiment un renouveau du jeu de société dans les années 2000, quoi, surtout pour la pratique des jeux adultes, qui avant était plutôt une pratique d'initié et qui s'ouvrait à un plus large public. À côté de ça, le jeu de société pour enfants aussi prenait un peu d'essor. On sortait un peu des classiques jeux de Noël en plastique. Il y avait des choses qui devenaient très intéressantes. D'un point de vue pédagogique, moi, en tant qu'animateur, c'était très intéressant à découvrir, à faire jouer pour les enfants. Et puis, donc plutôt une histoire de passionné, mais avec quand même des valeurs derrière, l'envie effectivement de faire partager tout ça au plus grand nombre.
L'objectif de la Maison des Jeux de Touraine, c'est de promouvoir en fait le jeu et puis essayer de faire jouer les gens tout simplement. Mais question peut-être toute simple et toute bête, mais quel type de jeu? Jeu de société ou d'ailleurs, quelle est la définition du jeu de société?
Bon, un jeu de société, c'est un jeu qui présente des caractéristiques très précises. C'est-à-dire que déjà, on n'y joue pas tout seul. Quoique maintenant, sur le marché, on découvre des jeux de société pour un seul joueur, mais on va dire quelque chose un petit peu à part. Souvent, ça tient dans une boîte. Et puis, surtout, très important, en fait, c'est il y a une règle du jeu. Et c'est ce qui fait toute la différence avec le jouet. C'est-à-dire qu'avec un jeu de société, on se met d'accord avec les joueurs autour de la table pour savoir de la manière dont on va utiliser le matériel qui est dans la boîte.
Oui,
Globalement.
donc il y a vraiment une scission entre jouet et jeu pour le coup. Et même un jeu extérieur peut être considéré comme un jeu de société?
Bah souvent, on présente ça comme des jeux extérieurs, des jeux d'adresse, mais il y a un point commun qui est la règle du jeu, effectivement. On pourrait tout à fait les mettre ensemble. Voilà, c'est des groupements qui peuvent librement s'associer ou se dissocier. Le jeu de société fait partie de la grande catégorie des jeux.
Vous, avant de continuer, quel est votre jeu préféré? Je préfère poser la question tout de suite parce que comme ça, on essaye de voir un peu vos goûts pour les jeux.
Ah, c'est la question qu'on nous pose souvent, mais j'ai pas
Parce
de jeu.
que j'imagine que vous avez essayé évidemment énormément de
Oui.
jeux par l'association. Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment marqué et sur lequel vous vous dites, bon là, j'aimerais l'acheter, j'aimerais l'offrir, j'aimerais le partager? Plus qu'un autre, évidemment.
Bah, pour ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai peut-être fait trop de jeux, je connais trop de gens pour me rendre compte qu'en fait, un jeu, il faut qu'il soit en phase avec la situation et avec les personnes. Et donc, cette situation, elle est liée à des personnes, elle est liée au temps qu'on a à disposition pour jouer, voilà, puis même nous, dans l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, j'aurais pu citer des noms de jeux qui m'ont particulièrement plu, qui me plaisent encore, ou des jeux que je voudrais acheter. Mais en vrai, ça va dépendre du moment, en fait, avec qui on va vouloir jouer. Si je veux jouer avec mes enfants, si je veux jouer avec mes amis, avec mes parents, mes frères et sœurs, je vais peut-être pas sortir la même chose au même moment. Donc, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est qu'on a une grande diversité de jeux de société disponibles en boutique spécialisée et ça nous offre des situations très variées et c'est ça qui est tout à fait agréable.
Une grande diversité aussi chez vous, puisque vous avez environ 4000 jeux, c'est
C'est
ça?
ça, oui.
C'est énorme, 4000 jeux de société pour le
Ouais,
coup.
ça prend un peu de place. On commence à en mettre un petit peu dans
Oui, parce
les.
que c'est peut-être des petites boîtes, mais 4000 petites boîtes, ça
Alors,
prend de la place.
on n'a pas que des jeux de société, on a aussi donc des grands jeux, on appelle ça les grands jeux en bois, qui sont pas tous en bois, mais c'est plutôt donc des jeux d'adresse, des jeux qui font appel à la dextérité, des jeux de rapidité, de motricité, qui sont très indiqués pour installer sur des places publiques. On a pu nous voir aussi à des événements culturels comme Terre du Son, ou sur la Guinguette. Enfin, il y a des tas d'événements sur lesquels on va mettre à disposition ces grands jeux en bois. Et puis on a aussi des jeux traditionnels, donc des jeux qui sont originaires d'autres pays du monde et des fois d'autres époques en fait. On a des jeux un peu antiques à présenter. Là, c'est tout un patrimoine culturel qui est intéressant aussi à découvrir.
Alors vous dites, ça c'est quelque chose que j'ai pris sur votre site internet, vouloir promouvoir donc le jeu, on l'a dit, comme démarche culturelle populaire. Ça veut dire quoi cette expression? Est-ce que ça veut dire que finalement les gens se désintéressent un peu du jeu ou pas?
Bah, disons on estime que le jeu, c'est une pratique culturelle, du fait qu'elle soit complètement ancrée dans notre société actuelle. Les jeux auxquels on joue aujourd'hui ne sont pas les mêmes jeux qu'on jouait il y a 50 ans. Il y a même des cultures dans lesquelles le jeu est restreint à certaines populations. Et en ça, pour nous, c'est éminemment culturel. Et on voudrait participer à la reconnaissance du jeu comme une pratique culturelle, mais aussi comme un objet culturel. De ce fait, on aimerait que le statut d'auteur de jeu soit davantage reconnu. On aimerait bien participer à ça. Sur les boîtes, depuis une dizaine d'années, on voit de plus en plus apparaître le nom des auteurs. C'était quelque chose qui était assez réservé à une élite d'auteurs par le passé, et c'est bien de voir ça parce que c'est un vrai travail de développer un jeu de société. Il y a des thématiques qui sont complètement ancrées dans notre société. Il y a des démarches d'auteurs qui visent à vraiment réunir les gens autour d'un ressenti, une émotion quand on fait un jeu. Et en ça, c'est pour nous, c'est aussi un objet culturel et ça nécessite d'être connu en tant que tel.
L'association Maison des Jeux de Touraine intervient aussi dans les écoles notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites? Est-ce que ça passe aussi par l'éducation, le jeu? Est-ce que vous apprenez finalement aux enfants à jouer? Est-ce que c'est un savoir-faire, le jeu?
Alors, oui, alors c'est une méthode d'apprentissage aussi, le jeu. C'est privilégié par aussi bien par les enfants et puis les adultes. En fait, on apprend des tas de choses en jouant. On va dire que nous, ce qu'on fait le plus, c'est de faire jouer les gens. Et c'est un peu le plus important. Parce qu'en fait, au travers d'une situation de jeu où les gens se réunissent pour jouer ensemble à un jeu, il y a des tas d'apprentissages qui se passent, qui sont aussi intéressants pour des adultes que des enfants. De ce fait, autour de ça, comme on est animateur et qu'on a une connaissance technique sur un certain nombre de jeux, on va pouvoir choisir les jeux en fonction de la situation recherchée. Et donc il y a des situations très variées en fait. Dans des milieux professionnels, on va pouvoir rechercher éventuellement faire en sorte que des parents jouent avec des enfants tout en étant intéressés par le jeu. On va chercher à briser la glace entre des personnes qui ne se connaissent pas. Il y a des tas de choses comme ça. On va essayer de se chercher à faire parler les gens. Je me perds un peu dans ce que je raconte, mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'au travers du jeu, on apprend tout un tas de choses. Donc après, on va effectivement en école, on va dans des instituts médico-éducatifs, sur le domaine médico-social.
Aussi, vous intervenez en milieu carcéral?
Ouais, alors là, c'est des choses qu'on a fait par le passé, qu'on ne fait plus. Donc c'est peut-être y a besoin d'une petite mise à jour sur le site. Mais effectivement, on l'a fait. Ouais, pour ma part, j'y suis allé il y a quelques années. C'était plutôt au début de la maison des jeux, pour faire jouer effectivement en prison les
Et
détenus.
concrètement, ça se passe comment? Vous amenez une dizaine de jeux et vous réunissez les gens et vous jouez, en fait, tout simplement, ou ça se passe un peu différemment?
Il y a eu plusieurs projets de menée, ça date un peu, mais il y a eu des projets différents. Il y a eu des choses qui se sont passées qui visaient à jouer avec peu de matériel, par exemple autour de jeux de cartes et de jeux de plateau. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça permettait aux détenus de ramener le matériel en cellule et de pouvoir jouer avec leurs camarades de cellule, on va dire. Et puis aussi, il y avait des choses autour de la simple découverte du jeu de société contemporain.
Est-ce que vous pensez que c'est un besoin de jouer aujourd'hui? Parce que, alors on le verra un peu plus tard, mais notamment pendant le petit quiz, je vous en avais
J'ai
parlé en
hâte.
antenne, mais voilà, tout le monde, tous les invités disent ça, et puis après ils ont un peu peur. Non, faut pas s'en faire. En revanche, on en parlera, mais le jeu, c'est quelque chose qui se démocratise quand même en France, et qui c'est un des pays européens qui joue le plus, les Français, après les Britanniques, en tout cas en termes de chiffre d'affaires sur les jeux joués, bon, on y reviendra
D'accord.
tout à l'heure. Mais est-ce que c'est dans la culture française, et est-ce que le jeu est essentiel à l'éveil finalement? On utilise souvent ce terme d'éveil quand on parle de jeu, mais est-ce que c'est indispensable?
C'est vrai que, enfin, on essaie de lutter un peu contre ça, mais la pratique des jeux, elle est dans l'inconscient un peu collectif des adultes, elle est un peu réservée aux enfants. Et c'est pour ça, quand on parle de jeu d'éveil, de jeu d'apprentissage, le jeu pédagogique, etc., on pense tout de suite aux enfants, alors qu'en fait, il est vraiment intéressant de continuer à jouer à l'âge adulte. Et en fait, la plupart des gens continuent à jouer à l'âge adulte. C'est pas pour rien qu'il y a la Française des Jeux, même si c'est autre chose comme type de jeu. Et puis, qu'il y a aussi des tas de pratiques sportives qui sont différentes du jeu, parce qu'on rentre dans des compétitions, on y met le corps en interaction. Mais finalement, on a tous besoin, à un moment donné, de se défouler, de faire quelque chose qui nous vide la tête et qui nous libère l'esprit.
Faut aussi dire que finalement l'humanité a toujours joué. Pendant l'Antiquité, c'était les osselets, bon, pour prendre cet exemple-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît finalement avec l'humanité et l'homme moderne, finalement, le jeu.
Tout à fait.
Du coup, c'était la petite parenthèse historique, la petite parenthèse antiquité. En revanche, maintenant, est-ce qu'on peut savoir comment la maison des jeux de Touraine sélectionne ses jeux ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous les faites venir, ces jeux, et comment vous les sélectionnez ?
Alors, on fait ce qu'on appelle de la veille ludique de notre côté. Voilà, on a quand même 5 salariés à la Maison des Jeux de Touraine, et puis plein de bénévoles. Donc, à la fois, ces gens sont intéressés par la pratique des jeux, et donc il y a de plus en plus de sites d'information sur le web voilà, qui sont tout à fait intéressantes, où les gens partagent voilà, leur découverte ludique. Donc, on peut s'intéresser par ce biais-là. On surveille un petit peu, puis on se rend sur des manifestations telles que le Festival de Cannes pour découvrir les nouveautés des éditeurs. Et ensuite en faire l'acquisition, soit par le biais de partenariats avec les éditeurs de jeux. Comme à la Maison des Jeux, on développe beaucoup d'actions en fait, de promotion du jeu. Les éditeurs sont enclins en fait, à nous faire des dotations pour contribuer à faire découvrir leur jeu. Et puis après, on achète le cas échéant sur des projets quand on a besoin.
Vous avez évoqué le Festival de Cannes. Oui. Alors en fait, c'est parce que, en tout cas d'après mes recherches, alors évidemment vous pouvez sûrement préciser tout ça, il y a un festival en fait du jeu de société qui s'appelle L'As d'Or, c'est ça ?
Tout à fait.
Qui a lieu chaque année finalement, et c'est en février d'ailleurs.
Ouais. Fin février, donc c'est le Festival international des jeux de Cannes, ça date un peu maintenant parce que ça doit être...
1988 ?
Oui, ah oui,
il a été créé à ce moment-là, c'est quand même...
Et qui consiste à faire découvrir le jeu de société, puis à sortir une sélection As d'Or avec des prix, en fait.
Alors du coup, est-ce que c'est la référence un peu dans les prix pour les jeux de société aujourd'hui ou pas ?
Alors on peut prendre ça en référence, c'est intéressant parce que les prix sont décernés par un jury qui est quand même composé de professionnels qui viennent de différents milieux du jeu. Ça peut être des gens qui sont sur des sites ludiques, des gens qui sont ludothécaires, des gens qui sont vendeurs dans les magasins. Donc oui, les jeux qui sont proposés à l'As d'Or sont forcément intéressants.
Alors on va revenir un peu dessus plus précisément cette année. Les vainqueurs, alors il y a plusieurs catégories, évidemment, catégorie jeune, etc., et expert même d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie catégorie expert ?
C'est-à-dire que c'est des jeux, c'est un peu des poids lourds, quoi. C'est-à-dire que c'est des jeux qui nécessitent d'être joués par des gens qui ont déjà l'habitude de jouer, parce que soit les règles sont longues à apprendre, que la stratégie à mettre en place est difficile, que ça demande une courbe d'apprentissage assez longue, et les jeux souvent sont assez longs.
Alors du coup, les vainqueurs cette année de cette As d'Or, donc le Festival de Cannes, c'est un peu la Palme d'Or en fait du jeu de société. Il y a Unlock qui a été primé, Kikou le Coucou, donc c'est évidemment des titres de jeu, pour les enfants, oui pardon, et Seat dans la catégorie expert, voilà. C'est ces trois jeux. Est-ce que vous les avez par hasard, ces jeux, à la Maison des Jeux de Touraine ou pas ?
On a Kikou, on l'a évidemment, Unlock également, en revanche Seat, on l'a pas.
C'est un choix ou vous l'avez essayé et...
Non, en fait, disons que la Maison des Jeux, elle a aussi, une existence économique et les jeux, ça coûte cher. Donc en fait, on est obligé aussi de faire des choix et notamment tout ce qui est jeux experts, on va moins en acheter. Parce que souvent, ils ont moins besoin d'être promus du fait que ce sont plus des joueurs donc, qui vont faire l'achat de ces jeux. Bon, on en a quand même plein, hein, des jeux pour experts, mais on n'est pas au top de l'actualité au quotidien parce que ça nous coûterait trop cher d'investir sur ces jeux.
Oui, vous parlez des coûts, justement. On peut peut-être évoquer le sujet deux minutes parce que c'est effectivement, c'est des jeux qui ont un coût. Comment vous faites, vous, pour vous les procurer et pour financer un peu tout ça et toutes vos dépenses par rapport à l'achat de jeux ?
Globalement, on pense plus une dépense globale pour permettre à l'association de fonctionner. C'est-à-dire que on n'a pas des budgets spécifiques pour l'achat de jeux. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on a plein de partenariats éditeurs qui nous permettent de découvrir des jeux et de les obtenir gracieusement, du coup. À côté de ça, on fait quelques achats parce qu'on a besoin sur des projets d'acheter des jeux spécifiques. Après, bon, bah, pour faire fonctionner l'association, on met en place des animations facturées auprès de structures qui ont besoin de nos services. On propose de la location et on fait aussi de la formation autour des jeux. Et puis on a quelques financements publics, notamment on a pas mal d'aides à l'emploi issues du conseil régional. On est aussi un peu aidé par la ville, par différentes infrastructures d'institutions.
Alors évidemment, vous ne pouvez pas avoir tous les jeux et de toutes les sortes. Est-ce que vous êtes concentré sur un type de jeu particulier, peut-être une catégorie d'âge ou pas?
Non, parce qu'en fait, si vous voulez, on a vraiment une activité qui est à la fois professionnelle avec les salariés, qui va peut-être plus cibler une catégorie de jeux, donc moins les jeux experts, parce que quand il s'agit de faire découvrir des jeux à des gens, on les lance pas tout de suite sur des jeux de 2 heures avec des règles complexes. Donc peut-être que sur la partie salariée, on est plus sur des jeux poids moyen, familiaux. C'est ce qu'on présentera d'ailleurs à la machine à jeux, dont on parlera tout à l'heure. Alors que sur les ludothèques, en fait, il y a des soirées organisées par nos adhérents, il y a des temps sur les samedis après-midi, et puis sur d'autres événements à l'initiative de nos bénévoles, il y a ce type de jeux compliqués qui peuvent être présentés. Il y a des tournois mis en place. Donc en fait, on a vraiment une large offre de pratiques de jeux.
Vous brossez
Voilà.
un peu large. Vous avez parlé des ludothèques. Alors, est-ce qu'on peut évoquer ce sujet? Vous m'avez dit hors antenne que vous avez en fait deux locaux
Oui.
avec tous ces jeux, etc., où vous accueillez aussi les gens qui ont envie de jouer, en fait, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, comment ça se passe et où sont situés aussi ces locaux?
Donc, une ludothèque, c'est un endroit où on vous invite à venir pour jouer sur place. Et puis, dans certaines, on peut emprunter des jeux. C'est le cas pour nos ludothèques. On a un local qui se trouve en centre-ville de Tours, sur le quartier Cathédrale, au 16 impasse Jules Simon. Et puis, on a une autre ludothèque qui se trouve sur le quartier Rive-du-Cher, à l'espace Toulouse-Lautrec. Donc là, on est au 7 rue Toulouse-Lautrec. Sur ces ludothèques, il y a des horaires d'ouverture 2 fois par semaine. En centre-ville, on est ouvert à partir de 20h le jeudi. Et puis, le samedi après-midi, de 15h à 18h. Et sur les Rives-du-Cher, on est ouvert le mercredi après-midi de 15h à 18h et le samedi matin de 10h à 13h. Sur ces temps-là, en fait, ce sont des bénévoles et puis un volontaire en service civique qui accueille les adhérents et les visiteurs pour leur faire découvrir un petit peu ce que c'est que l'association, c'est quoi cette maison des jeux, qu'est-ce qu'on y fait, et puis leur expliquer un petit peu le fonctionnement de la ludothèque. Le cas échéant, ils invitent à découvrir les jeux avec les autres personnes présentes sur les ludothèques. Et donc on y met à disposition 300 à 400 jeux de société. Qui sont répartis en différentes tranches d'âge. On est...
Donc un dixième, grosso modo, de votre trésor
Ouais, on peut dire
ludique.
ça comme ça, voilà. Sur chaque ludothèque, il y a 300 ou 400 jeux disponibles, jeux de société principalement. Et puis on met aussi à disposition pour les plus jeunes un espace de jeux symboliques avec des jouets, des jeux, on va dire des jeux de figurines, des choses pour une dinette ou un espace qu'on appelle l'espace jardin.
Plus dédié pour le coup aux enfants, là,
Pour les
en
enfants, ouais,
l'occurrence.
effectivement.
Tu as le droit au petit quiz
Ah, c'est
comme
maintenant,
chaque
mince.
invité, voilà, c'est maintenant, comme chaque invité de sortie, je mets le petit jingle et c'est parti. Première question.
Superbe jingle d'abord.
Alors, c'est pour mettre en confiance. À quand date la première édition du Monopoly?
C'est vieux, c'est
C'est
très
vieux,
très vieux.
effectivement, c'est vieux.
Et puis en plus, il y a, comment dirais-je, il y a des contestations sur la paternité du Monopoly. Donc, selon les sources, ça va peut-être varier. Je dirais dans les années 1930.
Ah, pas mal, pas mal. 6 février 1935. Alors, l'origine officielle, en tout cas, de la création de Monopoly, en fait, ça a été créé après la crise de
Oui,
1929,
tout à fait.
d'où le nom et en tout cas le but de ruiner finalement ses adversaires. Hein. C'est
Oui,
presque.
alors après, comme je disais, la paternité, elle est contestée parce
Ouais.
que ben, c'est les frères, enfin comment il s'appelle, celui qui a écopé du, tu l'as pas dans tes petites fiches, ça.
Non, alors moi j'ai en créateur j'ai Elizabeth Magie et Charles Darrow.
Eh ben alors du coup, t'as peut-être les bons en fait.
Alors eux, a priori, c'est ceux qui seraient à l'origine, en tout cas, de la version
Ouais, la première.
classique et originale du Monopoly. Deuxième question. Est-ce que tu peux
En
me...
fait, leur travail avait été de démontrer que le capitalisme n'était pas une voie qui pouvait fonctionner sur la première version, il me semble. Et c'en
D'accord.
est devenu un jeu, justement, qui est
Qui prône presque
complètement
à l'opposé. Ouais.
à l'opposé.
Est-ce que tu sais, pardon, la taille du marché jeux joués, alors pour le coup, c'est deux marchés qui sont imbriqués l'un dans l'autre, en milliards d'euros en chiffre d'affaires en France.
J'en ai aucune idée. Vraiment, c'est pas du tout...
En sachant qu'il est en essor, on l'a évoqué hors antenne, mais il y a plus de 1000 jeux, 1400 même peut-être l'année passée, qui sont sortis chaque année. Alors dans le monde, hein, évidemment, mais c'est un marché en plein essor. Alors le chiffre en France représente 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un secteur économique qui pèse en France.
Oui, bah, il y a maintenant un distributeur de jeux qui est coté en bourse, en fait, hein, qui s'appelle Asmodée. Et c'est vrai qu'en 20 ans, là, le marché du jeu a eu un essor important. On voit de plus en plus de petites maisons d'édition qui se montent. On a de plus en plus de jeux qui sortent tous les ans. Alors, c'est intéressant pour nous parce que bah, voilà, on découvre plus de jeux. Ça répond à nos envies de découverte. Après, ça reste un marché, on va dire, mineur, quand même, par rapport à d'autres marchés.
Oui, effectivement. Troisième question, troisième. Quel est le plus grand fabricant de jouets dans le monde ? Ça date de 2014. Cette firme a pris les rênes du monde en 2014. C'est une firme très très connue.
Alors tu peux peut-être, je sais pas, me donner un 4 réponses, puis je choisis parmi les 4, tu vois, un carré ou...
Non, en revanche, c'est une firme danoise, une entreprise danoise qui a créé un très célèbre
c'est
jeu.
C'est Kapla ?
Non.
Ben non,
non, mais qui a créé un jeu, alors je sais pas vraiment si c'est un jeu de société, mais en tout cas un jeu d'éveil très très célèbre.
Oula.
C'est Lego.
Je pensais à ça.
C'est tout simplement Lego.
Oui,
voilà.
C'est vrai que c'est Lego.
Lego est depuis 2014 le plus grand fabricant de jouets et de jeux au monde. Voilà, pour la petite anecdote. Quatrième question, j'ai que 4 questions, tiens, aujourd'hui.
C'est bien, ça évitera de me ridiculiser.
Voilà, bon, bah, 4 questions, c'est pas grave. Quel est le jeu le plus vendu depuis le 1er septembre 2017 en France ?
Un jeu qui soit sorti depuis le 1er septembre ?
oui, et qui est sorti, il me semble, en août, si je me trompe pas, et qui est vendu donc depuis septembre 2017, donc depuis 2 mois, grosso modo, 2-3 mois, et qui est le plus vendu en cette fin d'année.
Ma foi, depuis.
Peut-être que la
mois.
Maison des jeux l'a acheté d'ailleurs.
Ah ouais, c'est
peut-être
possible.
Que vous l'avez acheté.
J'en ai aucune idée.
Alors, le nom s'appelle Codenames.
Ah
c'est
oui,
un jeu d'espion.
Alors, il est sorti depuis plus longtemps que ça.
Ah, il est, bah voilà.
C'est qu'ils viennent de sortir Codename Image par contre. Mais effectivement, Codenames, c'est un jeu qui est sorti il y a plus d'un an maintenant.
Ah! Et alors du coup vous l'avez.
Oui.
Très bien. Bon bah voilà, c'était le petit quiz habituel. Bon, vous en êtes pas si mal tiré. Est-ce que on peut maintenant évoquer la machine à jeux ?
Donc, bah avec plaisir.
Cet événement qui aura lieu et que vous organisez le 2 décembre, donc samedi prochain en fait, 2 décembre 2017, hein, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est cette machine à jeux ?
Oui, alors c'est un événement voilà dont c'est la deuxième édition. À l'origine, il y a en fait une action qui s'appelle la quinzaine du livre jeunesse qui nous a inspiré, qui existe depuis très longtemps, elle, qui consiste à faire découvrir les livres jeunesse, enfin, les nouveautés jeunesse au grand public. Et bien nous, on s'est un petit peu inspiré de ça en se disant, bah tiens, y a de plus en plus de jeux qui sortent, les gens n'ont pas le temps de tout découvrir, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu les aider, les orienter, et puis faire bénéficier de l'expérience qu'on peut avoir au quotidien de notre pratique de jeu. Et donc l'idée, ça va être de proposer lors du 2 décembre une sélection restreinte de jeux de société qui sont sortis dans l'année passée. Donc c'est pas des jeux qui viennent tout juste de sortir, mais c'est des jeux qui peuvent avoir jusqu'à un an en fait, entre septembre 2016 et octobre 2017. Et puis on a mis ça dans la catégorie jeunesse aussi, sachant que dans la catégorie jeunesse, on trouve à la fois des jeux que nous on appelle les jeux maternels, donc des jeux à partir de 3, 4, 5 ans, des jeux primaires qui vont être plutôt de 6 jusqu'à 8 ans, et puis les jeux ados qui sont plutôt des jeux à partir de 8 ans, sachant que des jeux ados sont souvent aussi des jeux qui sont tout à fait adaptés à la pratique pour les adultes, parce qu'un jeu à partir de 8 ans, dans le monde du jeu de société, c'est déjà un jeu pour les familles et les adultes.
Donc ça va rester vraiment pour les jeunes, même si évidemment ils pourront être joués par les adultes, en tout cas pour cette journée.
En fait, les thématiques, ce qui fait que ça reste un jeu plutôt, c'est une catégorie moyenne, dans le sens où c'est des jeux qui ne vont pas être trop longs. On ne va pas aller au-delà de 45 minutes de jeu pour un jeu ado, une heure, mais donc il y a des jeux qui sont vraiment très intéressants pour les adultes. hors contexte familial. Enfin, voilà, il y a des jeux dans la sélection qui seront parfaitement plaisants pour les grandes personnes.
Alors, la sélection, justement, comment vous avez décidé des jeux que vous allez proposer pour cette machine à jeux?
Alors, il y a deux démarches. La première, c'est de faire en fonction de notre expérience. Donc pendant un an, on a été à Cannes, on a eu des jeux, on les a fait jouer auprès du public, dans des situations un peu spécifiques, hein, qui sont souvent des situations professionnelles où on fait se rencontrer les gens, pour notre propre pratique de jeu à nous. Et puis, donc on a fait une présélection un peu large, et puis après, au sein de l'équipe, des bénévoles, de membres de la Maison des Jeux de Touraine, on a essayé de restreindre à une dizaine ou une douzaine de titres par catégorie maternelle, primaire et ado. Et c'est ces titres-là qu'on va présenter le 2 décembre. Au-delà de ça, cette année, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a voulu mettre les jeux en face du public auprès duquel ils étaient destinés. Et donc, depuis quelques semaines, on se rend dans une classe, dans l'école Raspail, dans la classe de Madame Maestrachi, où on a une classe de CM1, CM2, avec 28 élèves, auprès desquels, en fait, on fait un atelier jeu toutes les semaines, qui consiste à leur faire découvrir la sélection primaire, évidemment, et puis à les faire réagir sur leur plaisir de jeu, comparer qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et les amener à argumenter leurs jeux préférés et pourquoi ils préfèrent cela.
Est-ce qu'en fonction de ce que vont vous dire ces jeunes, ça va aussi vous influencer, vous, sur les prochains jeux à acheter ou à faire venir?
Alors là, c'est des jeux qu'on possède déjà, sinon on ne pourrait pas les faire jouer. Mais en revanche, on espère que ça va influencer le public, parce que l'idée, c'est d'avoir une production décrite par ces enfants qui puisse être présentée à l'occasion de la machine à jeux. Et donc, des paroles d'enfants pour dire, moi, ce jeu-là, je l'ai adoré pour ces raisons-là. Donc, j'y mets un petit coup de cœur. Allez-y, les yeux fermés. Quoi. C'est plutôt que ce soit des adultes qui préconisent des jeux pour les enfants, c'est les enfants eux-mêmes qui préconisent pour leurs camarades et pour les familles.
Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 titres de jeux que vous allez proposer le samedi 2 décembre pour la machine à jeux?
Bien sûr, ouais. J'en ai la liste. Parce que...
la liste. Monopoly, alors, oui ou non?
Non, pas Monopoly, parce que comme tu l'as dit, il est sorti depuis très longtemps.
Il y a beaucoup de versions aussi.
Alors, il l'aurait dit tous les ans avec une édition Tour, une édition Star Wars, peut-être cette année.
Il y a une édition Tourangelle
Oui, il y a une édition de Tour. Ouais. La rue la plus chère, je crois, ça doit être, je ne sais même pas.
Place Plume, non?
Peut-être, on me l'a dit il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle pas. Et dans les titres à découvrir en maternelle, on peut citer quelque chose qui nous a beaucoup plu, qui s'appelle Ramasse le trésor. On peut citer Cui-Cui aussi chez Abba. On a des cochons rapido qui nous fait beaucoup rire. Après, dans la famille des jeux primaires, il y a un jeu qui a énormément marché, qui est sorti en plus depuis un petit moment maintenant, qui s'appelle King Domino, qui a maintenant même un deuxième jeu du même type qui s'appelle Queen Domino, qui est sorti il y a peu de temps. Donc c'est des jeux qui nous semblent intéressants de pose de tuiles. Il y a quelque chose qui a très bien marché dans la classe là, qu'on visite, c'est la légende de Wendigo, un jeu pour trembler de terreur. Et puis plutôt pour les adultes, on va retrouver Unlock, qu'on a cité tout à l'heure.
Donc le vainqueur de l'As d'Or Cannes 2017.
C'est ça. Hein. C'est un jeu qui rappelle en fait l'ambiance d'un escape room, sachant que cette mode des escape rooms a vraiment pris sa place. On a maintenant 3 escape rooms à Tours, qui donc c'est des endroits.
Le but c'est de sortir à base d'énigmes d'une pièce.
Ouais. On a un petit groupe, et bien Unlock reprend le principe, mais sous format de jeu de société. Donc on a une heure pour sortir, pour se libérer d'un endroit, mais là ça fonctionne avec des cartes et c'est très plaisant à jouer.
C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le fond finalement des jeux, mais ça serait assez long à évoquer tous les jeux que vous avez, 4000 on le rappelle.
Oui.
Juste, on peut rappeler aussi que c'est de 14h à 19h, donc le samedi 2 décembre à la salle Hockey Games, c'est ça. Et puis si les auditeurs ont éventuellement des questions, ils peuvent aller sur votre site www.mdjt.org, c'est
tout à
ça
fait.
Maison des Jeux de Touraine pour cette journée, la machine à jeux qui aura lieu donc samedi prochain, le 2 décembre. Merci beaucoup.
J'en profite pour
allez-y.
Pour inviter aussi les auditeurs, parce qu'on a sur Tours, je parlais tout à l'heure du contexte culturel. Voilà, le jeu, c'est aussi, derrière un jeu se cache un auteur de jeu. Et on a des auteurs parmi les membres de la Maison des Jeux de Touraine, et il y a des jeux présentés par des auteurs tourangeaux qui seront présents. Donc on a un jeu qui s'appelle Décrocher la Lune, qui sera présent, qui est un jeu de Juan Rodriguez et Fabien Riffaut. Donc on est tout à fait ravis de le présenter, parce qu'en plus on les connaît personnellement et on les apprécie. Et puis on a Simon Havard qui sera peut-être présent, et dont on présente le jeu qui s'appelle L'Arbre. Donc ça fait plaisir de pouvoir dire à Tours il y a aussi des auteurs, et vous pouvez les rencontrer au sein de la Maison des Jeux et à l'occasion peut-être de la machine à jeux. En tout cas, vous pourrez découvrir leur jeu.
Merci beaucoup pour ces précisions, Pierre. On invite nos auditeurs, évidemment, ceux qui sont fans de jeux, à aller à cette journée le 2 décembre. Merci encore.
Ben, merci à vous.